Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Pour terminer l'année 2015-2016, il nous reste trois émissions. Le jeudi 30, le mercredi 29 et ce soir. Ce soir, un thème majeur et constant dans l'histoire de l'humanité, la femme. Nous pouvions aborder ce thème de bien des façons. Nous avons choisi le féminisme et pour cela nous sommes allés à l'Université d'Aix-en-Provence nous entretenir avec Marc Calvini-Lefebvre, universitaire et chercheur, un universitaire dont le féminisme est un domaine de recherche prioritaire. Et de plus, cet universitaire est très apprécié des étudiants. En l'écoutant, vous allez comprendre pourquoi. Écoutons-le tout de suite. Marc, merci de nous recevoir dans votre bureau de chercheur à l'Université d'Aix-en-Provence. Alors, votre thème majeur de recherche, c'est l'histoire du féminisme. De quoi s'agit-il quand on parle de féminisme? Et quels sont vos travaux? Et quels en sont les résultats à ce jour?
Alors, ça c'est la question de savoir ce qu'est le féminisme est une question qui m'aura fait perdre beaucoup de cheveux pendant ma thèse. C'était très compliqué parce que je m'intéresse à cette question en historien. Et le terme féminisme n'apparaît que tardivement. Il apparaît qu'au XIXe siècle. Or, vous avez tout un tas de textes rédigés plutôt par des femmes, mais ça arrive aussi que ce soit par des hommes, qui datent du Moyen-Âge, qu'on a envie de placer dans cette histoire. Alors, comment faire pour ne pas utiliser ce terme de manière anachronique? Autre problème. Beaucoup de personnes qu'on aurait envie d'identifier comme féministes, l'exemple le plus célèbre étant l'auteur britannique Virginia Woolf, on a envie de les appeler féministes, mais elles-mêmes rejettent le terme. Alors ça devient compliqué, on a d'un côté des personnes qui ne connaissaient pas ce terme, donc leur appliquer devient anachronique, et d'autres qui le rejettent alors qu'on a envie de leur appliquer dans leurs travaux. Franchement, on ne peut pas raconter l'histoire du féminisme au Royaume-Uni sans Virginia Woolf, c'est impossible. Et pourtant, elle-même récuse le terme. Donc ça devient de plus en plus difficile. Et ensuite, vous avez le fait que ce terme est utilisé de manière courante dans la vie quotidienne contemporaine. Donc il a une multiplicité de sens qui sont parfois polémiques. Et puis parfois un peu plus, je ne sais pas si scientifique est le bon terme, enfin un peu plus neutre en tout cas, on essaye
de conceptualiser.
Voilà, plus conceptualiser, absolument. Donc c'était là la difficulté. Alors pour ma part, j'ai tenté de la résoudre en m'appuyant sur les travaux d'autres personnes. Les historiennes et les historiens ne sont pas d'accord, mais moi j'arrive à cette question depuis l'histoire des idées. Donc c'est ça mon champ, c'est l'histoire des idées politiques. Et en histoire des idées, il y a eu pas mal de propositions, et une qui m'a paru assez sensée, elle vient de deux collègues hollandais, qui s'appellent Sturman et Ackerman, qui ont proposé qu'on voit qu'on pose une base minimale, et qu'à partir de là, ça devient un travail d'interprétation. Alors la base minimale, c'est quoi? Eh bien, il y aurait discours féministe, ou pratique féministe, mais bon, là, on parle de discours surtout. Si on a d'abord une voix qui clairement veut parler au nom des femmes. Donc, l'objectif, c'est de défendre ce groupe qu'on appelle les femmes. Deuxièmement, on voit que la personne qui s'exprime pense que dans la société dans laquelle elle vit, les femmes sont, en moyenne, désavantagées par rapport aux hommes. Et enfin, troisième critère, les femmes, ce désavantage est construit, il n'est pas naturel. C'est pas le fruit de différences physiques ou physiologiques, c'est le fruit d'une construction sociale. Voilà. Alors à partir de là, on peut raconter tout un tas d'histoires sur tout un tas de féminismes au pluriel. C'est pour ça que je préfère parler d'histoire des féminismes plutôt que d'histoire du féminisme. Parce que justement, à partir de ce noyau de base, vous allez avoir tout un tas de développements possibles et en interaction avec de très nombreux mouvements idéologiques. Vous pouvez trouver des féministes un peu partout.
Il y a des féministes qu'on va associer, qui sont très proches du libéralisme, mais à l'intérieur du libéralisme, posent la question « et les femmes ?» dans tout ça. Donc, de manière, peut-être l'exemple le plus célèbre est un exemple assez récent, finalement. Le grand penseur libéral du XXe siècle, c'est John Rawls, l'américain John Rawls, avec son livre « A Theory of Justice », qui a été traduit par, je crois, « Théorie de la justice ». Mais c'est plus modeste que ça. C'est pas « Théorie de la justice », c'est une théorie de la justice qu'il propose, « A Theory of Justice ». Eh bien, ce grand ouvrage a été critiqué par une féministe qui s'appelle Susan Hocken, qui montre que un des angles morts du travail de Rawls, c'est que l'individu qu'il a mis au cœur de son travail, dont il donne l'impression que c'est un individu quasiment abstrait, est en fait masculin, sans que Rawls lui-même s'en soit rendu compte. Donc elle montre qu'il y a un travail à faire. Bon, ce même type de questionnement, et les femmes dans tout ça, vous le trouvez dans la pensée socialiste, dans la pensée communiste, à l'extrême gauche, mais aussi dans les mouvements religieux. C'est pour ça qu'on peut parler de, alors que ça peut paraître contradictoire, féministes musulmanes. Il y a tout un tas de femmes qui sont croyantes, de confession musulmane, et qui, à l'intérieur de cette tradition de pensée et de vie, posent la question, et les femmes dans tout ça, comment être une femme musulmane comment être dans une société musulmane, créer une société musulmane dans laquelle les femmes seraient traitées de manière équitable. Voilà. Donc c'est ça que je trouve extrêmement riche dans ce genre d'études, c'est de pouvoir comme ça explorer le féminisme dans ses formes, donc les féminismes. Donc je plaide moi pour utiliser le terme « malgré l'anachronisme ». Alors ça, c'est une question contentieuse. On pourrait dire, après tout, si vous êtes historien, ça c'est il n'y a peut-être pas sept péchés capitaux en histoire, mais il y en a au moins un qui est l'anachronisme. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais il me semble qu'on ne peut pas vraiment faire sans. C'est-à-dire que il y a une historienne américaine qui s'appelle Karen Offen, O-F-F-E-N, qui a écrit un ouvrage, « Histoire des féminismes », justement, qui précisément soulève ce problème en disant qu'elle avait tenté, elle, d'utiliser d'autres mots pour décrire les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, qu'elle étudiait au XIXe siècle, justement, avant l'apparition du mot féminisme. Elle avait tenté tout un tas d'autres étiquettes, et elle dit, et chaque fois que mes travaux étaient commentés par quelqu'un, tout le monde parlait des féministes dont je parlais. Donc visiblement, ce terme, on n'arrive pas vraiment à s'en défaire. Donc ça, c'est une première chose, c'est chaque fois qu'on lit ces textes-là, même si ces gens-là ne connaissaient pas ce terme de féministe, nous, on a envie de les appeler féministes, c'est bien que ça résonne. Et l'autre élément important, c'est que autant d'autres traditions idéologiques sont très bien établies, et c'est très vrai notamment de la tradition socialiste, où il y a un effort très, très important qui a été fait depuis le tout début pour documenter. Le socialisme se documente. Les grands ouvrages sur les 10 volumes, l'histoire du socialisme, c'est peut-être pas 10 volumes, mais il y a un énorme travail qui avait été fait par un monsieur qui s'appelle, le nom m'échappe, c'est un nom polonais, c'est Kowalski ou quelque chose comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un grand historien de la pensée socialiste. Bon, voilà, il écrit des volumes entiers en nous détaillant tous les penseurs, même les moins importants de la pensée socialiste et communiste et les différentes ramifications. Ça, c'est vrai dans cette tradition-là. La tradition libérale, ça l'est également, chez les conservateurs aussi. Par contre, la tradition féministe a souffert de l'invisibilisation dont les femmes, en général, ont pu souffrir dans l'histoire, dans la création de la discipline historique. Donc il y a une raison de plus d'utiliser ce terme pour insister sur la continuité. Parce que sinon, on a l'impression de moments très épars, d'explosion comme ça, hop, autour du vote à la fin du 19e, début du 20e, paf, une nouvelle explosion dans les années 60, et on perd la continuité qui en fait on peut faire remonter au moins jusqu'au Moyen-Âge, sinon avant.
Je vous ai entendu prononcer beaucoup de mots étrangers, etc. Et en France, alors, il y a des référents, il y a des auteurs,
oui, bien sûr, majeurs. Alors voilà, là, c'est ma formation personnelle étant de l'autre côté de la Manche, j'ai pas eu beaucoup à travailler avec les grandes références françaises, mais bien sûr qu'il y en a. Alors vous avez Michel Perrault,
bien sûr. Vous avez des femmes en plus,
oui,
pour le dire,
et qui dont les travaux sont majeurs. Peut-être l'historienne aujourd'hui qui prend sa suite, c'est Christine Barr, qui a écrit de très beaux ouvrages. Alors elle a commencé sur l'histoire des féminismes, elle a notamment écrit un livre qui s'appelle Les filles de Marianne, qui est un très grand livre, et ensuite là elle a récemment écrit des ouvrages remarquables qui sont toujours en lien avec l'histoire des féminismes, notamment un qui s'appelle Le pantalon, une histoire politique, qui est un livre très important parce qu'elle montre, elle s'intéresse à ce qui paraît anodin, c'est-à-dire ce pantalon, et elle montre en quoi le pantalon est, comme vous le savez sans doute, les femmes n'ont pas eu le droit de le porter pendant très longtemps par la loi. C'était interdit par la loi, et les femmes qui souhaitaient le porter devaient demander l'autorisation à la préfecture. Et donc elle s'intéresse à pourquoi c'est ça. Elle montre évidemment le lien avec le combat féministe.
Tous ces travaux, ça vous donne quoi, hein, provisoirement, comme synthèse et provisoire?
Alors, moi je dirais que ça nous donne déjà. Si vous voulez, c'est une question que je pose parfois à mes étudiants. À quoi ça sert l'histoire? À quoi ça sert de raconter tout ça? Bon, parce qu'à part évidemment avoir une note à la fin de l'année, et s'être épuisé à apprendre tout un tas de dates et de noms, tous plus curieux les uns que les autres. Raconter les histoires des féminismes, ça, je crois, nous donne des ressources pour mieux penser et mieux vivre dans le présent. Il ne s'agit pas de revivre ce qu'elles ont vécu, parce qu'on ne peut pas, et il ne s'agit pas de chercher des réponses à nos questions dans leur discours. Par contre, ça nous aide à prendre un peu de champ sur ce que nous sommes en train de vivre. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on étudie l'histoire des féminismes? On peut déjà, ça nous permet de réfléchir, non pas de tirer des leçons, j'ai pas trop l'idée de leçons du passé, ça marche pas trop bien, mais par contre de tirer des réflexions, de nous aider à penser ce qu'on est en train de vivre. Donc, penser par exemple le côté cyclique des engagements. C'est-à-dire l'impression, si vous intéressez un peu à l'histoire des féminismes, un truc qui vous marque, c'est que chaque génération a l'impression qu'avant elle, il n'y avait rien, et qu'elle réinvente tout. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conscience de cette histoire. Nos étudiants savent-ils, par exemple, qu'en 1914, c'est mon exemple préféré, en 1915, il y a eu à La Haye une réunion des femmes qui venaient du monde entier, des États-Unis, d'Allemagne, pas eu de Françaises, de Grande-Bretagne, etc., qui se sont réunies pour un congrès de la paix. Elles ont, pendant 2 jours, débattu, elles en sont sorties avec tout un tas de résolutions, et elles ont ensuite présenté ces résolutions aux différents chefs d'État, des gouvernements qui étaient en guerre, mais aussi des grands pays neutres, comme les États-Unis à l'époque. Certains de ces points se sont retrouvés dans les points de Wilson qu'il a présentés à Versailles. Qui le sait, ça? On n'étudie pas à l'école. Par contre, la conférence de Zimmerwald, où Lénine et compagnie se sont retrouvés, ça, on en parle. Donc déjà, cette histoire-là n'est pas racontée. Ensuite, on voit ce côté, le côté sentiment d'être toujours en train d'être toujours dans la répétition. Ben ça, déjà, on se rend compte à quel point raconter l'histoire devient important, puisque ça permet de recréer ces liens. Donc ça permet, par exemple, de faire tomber le mythe extrêmement pernicieux qui consiste à dire que les femmes, en France, ont obtenu le droit de vote parce que De Gaulle le leur a donné, ce qui est un mensonge. Mais c'est un mensonge bien utile, parce que ça permet, je crois, de ne pas mobiliser, enfin de maintenir à leur place les jeunes femmes d'aujourd'hui, parce qu'elles ont l'impression que leurs droits leur ont été donnés par une figure paternelle ou maternelle. Si c'est le cas, par exemple, du droit à l'avortement, c'est pareil, bah oui, mais ça leur a été donné par un gouvernement. Non, c'est le produit de mobilisations très anciennes, très nombreuses, où les femmes ont mené, surtout des femmes, il y avait aussi des hommes, mais c'est surtout des femmes, qui ont mené des campagnes très importantes. Et je pense que si on est une jeune femme dans la société d'aujourd'hui, connaître cette histoire-là, eh bien, ça vous donne des ressources pour vous-même ensuite penser votre propre engagement dans les choses pour lesquelles vous avez envie de vous battre. Ce qu'on apprend, je crois aussi, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est que l'histoire n'a pas de sens. Dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas penser naïvement qu'on va vers un monde féministe magnifique, parce que effectivement, les femmes d'aujourd'hui ont sans aucun doute des droits et un statut que leurs arrière-grand-mères n'avaient pas. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans une histoire de progrès qui avance comme ça de manière linéaire. Ce qu'on voit plutôt, c'est une série de progrès suivis de contre-coups, etc. L'autre chose très intéressante, je vous livre mes idées comme elles me viennent. Je ne veux pas impliquer, il n'y a pas forcément de hiérarchie dans ce que je vous dis là, mais un autre élément qui me paraît très très intéressant, c'est de voir que les féministes elles-mêmes, tout au long de leur histoire, ne sont pas d'accord. Et ça, c'est une leçon d'humilité pour tout le monde. Enfin, en tout cas pour moi. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que les gens qui vous disent « Il n'y a qu'une seule réponse féministe à ce problème et je la connais », je m'inquiète toujours un petit peu. Je pense qu'il y a des questions très importantes, très difficiles, comme la question de la prostitution, aujourd'hui les questions autour de la gestion pour autrui, les choses comme ça. C'est pas des questions simples, et l'histoire du féminisme, là, pour le coup, est une vraie ressource pour le penser, parce que, déjà, elles se sont posées ces questions, et déjà, elles n'étaient pas d'accord, et ça nous propose toute une palette d'idées pour y réfléchir.
Vous êtes en train, à travers l'histoire des féministes, et en indiquant ce que vous dites, à parler à la limite du combat de l'humain qui n'en finit pas, j'allais dire, de chercher des idées, de les concrétiser, de les réaliser. Mmh. Est-ce que vous nous dites que, par ailleurs, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de chemin linéaire, ce sont toujours des chemins itératifs, des avancées, des retours, etc. Et alors, que diriez-vous au poète comme Aragon qui dit que la femme est l'avenir de l'homme?
Alors... Aragon, que je connais très mal, me semble là articuler un point de vue que moi je m'en distance. Enfin, je prendrai mes distances parce que je trouve que c'est là une manière de répéter la piédestalisation, si je puis y inventer un mot, c'est-à-dire mettre les femmes sur un piédestal, ce qui est une manière très pratique et très commode de ne surtout pas penser la vie telle que nous la vivons. Dire la femme est l'avenir de l'homme, c'est une autre manière de dire elles sont tellement mieux que nous. Or, je ne pense pas que les femmes soient meilleures que les hommes, je pense que les hommes et les femmes sont des êtres humains qui vivent une vie compliquée dans un monde compliqué et qu'on va trouver chez les uns et chez les unes et chez les autres autant de gens formidables que de gens moins formidables. Cette manière de... Ça permet de surtout ne pas penser à la question. On fait une statue et on chante et on écrit des beaux poèmes. C'est vrai que ces poèmes sont magnifiques, mais il fait porter à cette entité un poids énorme. Dans cet espoir-là, la femme est l'avenir de l'homme, il y a cette idée que les femmes et qu'elles vont transformer le monde parce qu'elles seraient porteuses de quelque chose que les hommes n'ont pas. Et ça... Ça me gêne énormément parce que ça nous renvoie sur une vision essentialiste que la manière dont nous sommes éduqués, la manière dont nous construisons est clairement genrée dans notre société. Donc les hommes deviennent des hommes et les femmes deviennent des femmes sur des modèles assez différents. Je serais assez sceptique sur cette proposition d'Aragon.
Voilà la première partie de l'entretien avec Marc. Je retiendrai, si vous voulez, quatre points. La première, c'est un rappel pour nous tous. La première démarche en tout est cette question, mais de quoi parlons-nous ? Elle est valable pour chacun et au quotidien et sur tous les sujets. Deuxième remarque, c'est ce qu'il met en valeur sur l'apport de l'histoire. C'est vrai pour les femmes, pour le féminisme, mais pour tout. La troisième chose, c'est que l'histoire, c'est un produit, c'est une production, il faut jamais l'oublier. Puis la quatrième dimension que je mettrai en valeur, qui rejoint un commentaire de Françoise Héritier, et vous aurez dans la bibliographie plein de documents venant d'auteurs français, en plus des auteurs qu'il mentionne, Françoise Héritier dit « Les acquis des femmes sont bien fragiles. » On pourrait rajouter « Les acquis humains sont toujours fragiles. » À tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Chers auditeurs, nous allons écouter la deuxième partie de l'entretien avec Marc et sans doute aussitôt, nous allons écouter une musique, Paradisio, choisie par Anna qui a 18 ans et elle m'a dit qu'elle avait choisi cette musique pour trois raisons. Ça s'inscrit tout à fait dans l'entretien avec Marc. Elle me dit il y a un très beau profil de la maman et puis il y a un si bel amour et enfin, ce film est un chant à la féminité qui concerne chacun, homme et femme. N'oubliez pas que pour tout ce qui est la bibliographie, vous la retrouverez sur la note de synthèse, sur le site art au pluriel, culture au pluriel, éducation au singulier, relié, et en particulier, je vous mentionnerai des livres de Benoît Groot, qui nous a quittés il y a très peu de temps, qui est né en 1920, et vous aurez toutes ces informations et d'autres sur cette note de synthèse. Laissons la parole à Marc, suivi de cette musique, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi.
Alors, vous êtes chercheur, mais vous êtes enseignant. Donc, j'imagine que dans votre enseignement, vous parlez de vos recherches, oui. Donc des féminismes. Mmh. Quelle perception avez-vous de la réaction des étudiants d'une part et des étudiantes ?
Alors, déjà, je suis enseignant dans une fac de lettres, où il y a très peu d'hommes. C'est le bon point pour poser cette question-là n'est pas la fac de lettres, puisque là, les éléments sont tellement biaisés. Donc, on peut prendre peut-être l'autre endroit où je donne des cours, qui est l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.
Voilà, Sciences Po.
Et à Sciences Po, pour le coup, le corps étudiant et étudiante est 50-50 et un peu plus de filles. Bon, dans mes cours, il y a beaucoup plus de filles. Il y a très peu d'hommes qui viennent suivre mes cours et je pense que c'est assez fréquent pour des cours qui touchent. Alors, il ne s'appelle pas Histoire des féminismes, celui-là, j'en ai un qui vraiment s'appelle Histoire des féminismes ici, à la fac de lettres. Là-bas, il s'appelle Genre et politique. Et visiblement, dans le corps étudiant, c'est entendu comme un cours pour les filles. En tout cas, les filles, ils voient un intérêt, les hommes, peut-être moins. Les hommes qui suivent mes cours ont l'air très contents de les suivre et de les trouver très intéressants. Mais il est vrai que ce ne sont pas des cours qui ont autant qui attirent autant de garçons que de filles.
Ce qui veut dire que quelque part, c'est très difficile d'enseigner l'histoire des féminismes avec la perspective de pouvoir toucher les gens, toucher à leur culture, à leur vision du monde et donc demain à leur comportement.
Oui, alors je pense que de toute façon il faut être modeste. Les cours que je donne sont donnés à des adultes, même si ce sont de jeunes adultes. Leur vision du monde, leur comportement genré, etc., date de bien avant. Donc s'il y avait un travail à faire, il serait plus tôt. Et c'est un peu pour ça qu'il est assez dramatique que les ABCD de l'égalité aient été lâchés en rase campagne par le gouvernement sous la pression de personnes qui avaient d'autres objectifs. Parce que ça, c'était pas vraiment leur... À mon avis, ça ne traumatisait pas plus que ça, mais c'était l'excuse pour faire sauter cette perspective-là ou cet enseignement-là à l'école. Donc ça, c'est tout à fait regrettable parce que c'est effectivement dans la petite enfance, et puis après, moi j'ai deux enfants, je le vois très bien, de jeunes enfants, on voit bien comment leur genre est construit par l'institution, la publicité, la télévision, et puis aussi par les interactions avec leurs parents, etc. Donc c'est là que ça se joue. Les étudiants suivent les cours qu'ils veulent. On a quand même, c'est peut-être une déformation professionnelle. Moi, je vois le féminisme un peu partout. J'ai l'impression que le féminisme aujourd'hui, on entend parfois des jeunes féministes dire « Ah là là, le féminisme n'est pas entendu ». Moi, je trouve pas. J'ai l'impression qu'au contraire, il y a des voix féministes très fortes qu'on entend de mieux en mieux dans notre vie publique et médiatique. Et ça contribue aussi à l'éducation des adultes, peut-être plus encore que les cours à la faculté. Donc, je dirais, c'est peut-être dommage qu'ils suivent pas ces cours parce que ça leur donnerait d'autres éléments pour appréhender tout ça. Mais mon souvenir d'avoir été étudiant moi-même, c'est que quand j'étais étudiant, d'une part, il n'y avait pas de cours qui portaient sur ces questions, mais aussi le débat public était limité. Il a commencé à la fin de mes études, on arrivait sur la parité. Là, il y a eu un grand moment de discussion et j'ai l'impression que depuis, ça s'est poursuivi et ça continue. Et j'en veux pour preuve les derniers éléments, les derniers scandales là autour du harcèlement sexuel. Ça, c'est un énorme marqueur. Si
Si cette chose-là bouge, c'est un indicateur que le féminisme marque de vrais points.
Il finit par avoir un impact sur la vie quotidienne.
Il finit par avoir un impact sur les lieux de pouvoir.
Voilà.
Et c'est ça qui compte, parce que dans ces lieux de pouvoir, il y a des femmes. Si ces femmes arrivent à se faire entendre et à se faire traiter de manière équitable par des hommes qui, trop souvent, les prennent pour des objets sexuels avant de les prendre pour des collègues de travail, ça envoie un message ensuite plus bas, à tous les niveaux de la société. Et ça, c'est très très important.
Marc, une autre question. Le professeur Corbin, qui est à Paris, vient de sortir un très beau livre, L'histoire du silence. Et il dit, à propos, en présentant son livre, qu'il a souvent demandé aux étudiants de travailler ce thème du silence et qu'aucun ne voulait. Alors ma question est la suivante. Si vous aviez à conseiller des étudiants pour le master et encore plus pour le doctorat, quels sont les 4 ou 5 thèmes que vous aimeriez qu'ils prennent, même s'ils n'y prennent jamais?
Alors ça, c'est une question difficile pour moi parce que mon point de départ, c'est qu'on ne doit faire de recherche que sur ce qui nous intéresse, nous. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours du mal à conseiller les étudiants parce qu'ils viennent me voir en disant sur quoi je pourrais travailler. Ça va être dur pour moi de vous dire, c'est vous qui allez le porter. Alors après, ce sur quoi je pense qu'il serait vraiment intéressant d'avoir des travaux en ce moment, je reste quelqu'un qui pense que la recherche, elle est en prise avec... elle n'a vraiment d'intérêt que quand elle est en prise avec son temps. Ce qui est une position, je crois, qui n'est pas toujours partagée. Alors on va peut-être me dire, oui, vous êtes historien, c'est un peu bizarre de dire ça, mais non, au contraire, je pense que précisément, l'histoire est une manière d'aborder les problèmes du présent, mais en prenant du recul. Donc moi, les questions que j'aimerais voir poursuivies, ce serait autour effectivement de la prostitution. Alors là, peut-être plus, c'est plus de la philosophie, c'est-à-dire en termes de comment penser la prostitution masculine et féminine, pas que féminine, parce que des fois on réduit à ça. Ça, c'est une question qui me semble importante de penser la question, est-ce qu'on peut penser le libre arbitre, par exemple, au cœur de la prostitution. Tout ce qui touche, alors peut-être que c'est un sujet proche, connexe, la GPA bien sûr, question importante. Après, ce sur quoi moi je travaille et j'aimerais qu'on y travaille plus, c'est la question de la guerre et de son rapport au genre. Alors il y a beaucoup de travaux qui existent, mais ça reste quelque chose qui me pose tout un tas de questions, notamment. Vous avez, chaque fois qu'on parle d'une situation de guerre, il y a une manière d'en parler, notamment au niveau de la presse, qui sépare les êtres humains en deux blocs, les combattants et les non-combattants. Et dans ces deux blocs, les combattants sont toujours des hommes. Enfin, la manière dont on en parle, on fait comme s'il n'y avait que des hommes. Et quand on parle des non-combattants, on dit toujours les femmes et les enfants. Comme si les femmes et les enfants étaient une même catégorie. Donc là, il y a quelque chose à creuser et à déconstruire. Ça a déjà été fait, mais je pense qu'il faut poursuivre l'effort parce que ça vaut avoir été fait. Ça se retrouve dans les textes de l'ONU, ça se retrouve, donc ça n'infiltre pas. On n'arrive pas à casser cette association. Donc là, j'en suis à 3. Un autre thème sur lequel j'enseigne et sur lequel je voudrais plus travailler aussi, c'est la violence. La question de la violence et de sa dimension genrée. Un phénomène que pas mal de personnes ont un peu étudié, c'est la manière dont on parle des femmes kamikazes. Et très souvent, on va vous dire qu'une femme kamikaze, elle s'est faite sauter parce que son frère, son père, son mari, son fils avaient été tués par... Par contre, quand un homme kamikaze se fait sauter, c'est pas du tout parce qu'il avait un rapport avec... ou il peut pas... par amour pour une femme dans sa vie ou pour les femmes de sa vie, mais pour des raisons idéologiques. Et donc cette division entre des femmes qui seraient dominées par leurs émotions et des hommes dominés par leurs raisons, c'est quand même tout à fait... à questionner et à creuser.
Voilà, je dirais ça.
C'est bien. Alors, tout cela, vous avez résumé dans votre livre qui vient être publié quand?
Non, je ne résumerai pas tout ça dans mon livre, qui sera publié, j'espère, un jour, effectivement. Il va falloir que j'y travaille cet été et l'an prochain. Mon ouvrage portera sur la guerre de 14, puisque c'est là-dessus que je travaille. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le mouvement suffragiste, britannique, puisque c'est mon champ d'étude, a répondu à ce contexte absolument inouï et inconnu d'une guerre totale. Et face à cette guerre totale, qui commence pour les Britanniques avec cette affirmation du gouvernement, des grands posters, qu'on connaît mieux leur version américaine, mais les premiers étaient britanniques, des grands posters affichés partout avec un homme en moustache qui pointe son doigt vers le passant en disant « I need you for the army ». J'ai besoin de toi pour l'armée. Et le toi est évidemment un homme. Et donc, cette guerre commence, si vous êtes une femme qui, depuis 50 ans, essaie d'obtenir le droit de vote, elle commence en vous disant « On n'a pas besoin de toi ». Et tu n'es pas utile dans le contexte le plus important pour toute nation, qui est une guerre où on pourrait être envahi. Et donc, face à ce contexte-là, si vous êtes une femme qui, depuis 50 ans, s'organise pour essayer d'obtenir le droit de vote, vous faites quoi? Vous répondez comment? Voilà. Et j'ai cherché, moi, à faire une étude de ça, et donc mon ouvrage portera là-dessus.
C'est intéressant, parce qu'à travers cette métaphore, c'est le débat fondamental de la présence de la femme au cœur de l'humain, au cœur de l'anthropologie, au cœur de la société, au cœur de toutes les pratiques concrètes. Et justement, ce type de travail d'histoire, des idées que vous avez très très bien posées, à mon avis, est rarement fait. Il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de prises de position de militants, etc. Mais cette espèce de réflexion sur l'histoire du féminisme, et que dire des guerres actuellement dans les pays en voie de développement ou autres, les guerres ont d'autres formes, mais posent toujours cette thématique basique du rapport de l'homme, de l'enfant et de la femme, qui est une question basique. Peut-on imaginer, quel que soit l'avenir de l'humanité, un avenir sans poser cette question? Donc vous êtes en réalité sur une perspective de recherche, d'enseignement et de pratique qui est à la fois universelle et qui est au cœur de notre quotidien. Elle devrait faire l'objet d'un minimum d'informations, pour ne pas dire de formation, pour tous.
Oui, tout à fait. Et sur les guerres, pour revenir à cette idée que la recherche n'a d'intérêt que vraiment quand elle s'articule avec le présent, parfois elle s'articule d'une manière dont d'ailleurs on n'a pas conscience lorsqu'on est chercheur, on s'en rend compte qu'après, mais c'est les autres qui vous le font remarquer. Mais en tout cas, pour ma part, là, c'était très conscient. Lorsque je suis parti sur l'idée de travailler sur ces questions, c'était parce que nous étions en pleine guerre en Irak. Et qu'une des justifications de la guerre en Afghanistan et de la guerre en Irak, c'était « Allons sauver les femmes opprimées par d'horribles terroristes là-bas ». Et comment allons-nous les sauver? En faisant tomber des bombes sur leur tête. Qui pose quand même une question. C'est-à-dire, on justifie la guerre, ce n'est pas forcément une mauvaise justification, mais ça pose question quand même. Et moi, ça m'interpelle. Comment se fait-il qu'on mobilise les femmes les femmes étrangères de cette manière? D'autant que ça permet de se poser comme les gens civilisés et bien élevés qui, eux, se comportent très bien envers leurs femmes. Ce qui est faux. Les femmes, dans les pays occidentaux, malgré les progrès que nous connaissons, souffrent tout de même d'inégalités criantes, de sexisme, de harcèlement. Les viols, ça arrive aussi chez nous. Donc dire « ben non, nous, on traite très très bien les femmes », et puis c'est encore une manière très paternaliste et condescendante de présenter les hommes blancs qui seraient bien pensants et bien élevés face aux hommes bruns qui ne le seraient pas. Donc ça, et ce qui m'a marqué lorsque j'ai fait mon travail sur la guerre de 14, c'est que vous avez quelque chose d'assez similaire qui se passe au Royaume-Uni. Pour justifier l'entrée en guerre britannique, on utilise beaucoup les exactions de l'armée allemande en Belgique, qui sont réelles. Il y a eu des exactions, mais ce qu'on souligne dans ces exactions, ce sont les exactions qui ont porté sur les femmes et les enfants. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on remet les femmes et les enfants dans cette case qui est les individus incapables de se défendre par eux-mêmes. Mais un enfant et une femme, c'est pas la même chose. Une femme, elle peut se défendre par elle-même, mais on infantilise. On la met dans cette boîte, elle peut pas. Voilà. Et bien, si vous regardez les guerres d'aujourd'hui, nous avons à nouveau cette même logique, les pauvres femmes opprimées, on a les libérées, nous, les chevaliers blancs dans tous les sens du terme. Et en face, vous avez des gens... notamment les mouvements terroristes au Moyen-Orient, qui eux aussi sont dans une instrumentalisation terrible et genrée, voilà, de l'image de la bonne épouse du martyr. Voilà, il faut aller déconstruire tout ça parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement binaire qui nous empêche de penser.
Non, mais le mot instrumentalisation est très fort, à mon avis. Je reviens pour comme dernière question. Vous avez vous-même dit à un moment donné que vous êtes très sensible à laisser l'étudiant choisir son sujet de recherche. Alors, vous nous avez bien expliqué que vous avez choisi ce sujet, entre autres, par rapport à un contexte.
Oui, tout à fait.
Mais plus profondément, si on va voir le plus profond de vous, à la limite, le mystère qui existe même à votre égard, selon vous, quelles sont les racines de cet intérêt majeur de votre vie désormais,
oui,
sur ce thème?
Alors ça, c'est une question que je me pose souvent, qui est très très intéressante à poursuivre, essayer de comprendre pourquoi. Parce que parfois, les universitaires vous disent, c'est pas moi qui ai choisi mon sujet, c'est le sujet qui m'a choisi. Ce qui est toujours assez amusant. Et pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à me poser des questions à 18-19 ans sur l'engagement politique, les idées politiques, et j'ai toujours été attiré par les idées, la pensée politique, et je lisais plein de trucs, je trouve ça passionnant. Le problème, c'est que j'arrivais pas à faire de lien entre tout ce que je lisais et ma vie quotidienne. J'arrivais pas à voir comment je pouvais mettre en pratique des idées dites progressistes dans ma vie de tous les jours, parce que concrètement, moi tout seul, le système capitaliste, il n'y a pas grand chose que je pouvais faire. Et quand j'ai découvert très tardivement la pensée féministe, c'est-à-dire ça arrive après ma licence, je vais à Londres, je prends des cours, notamment des cours de master en théorie politique féministe, et là je suis face à une pensée qui souffle très très fort dans mes bronches parce qu'elle fait sauter tous mes a priori, tous mes prêt-à-penser. Elle remet en cause toutes les idées que j'avais reçues qui me paraissaient à peu près solides, notamment autour du citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire que la citoyenneté? Moi, je pensais que le citoyen français, 1789, tout ça, c'était un citoyen universel. Je découvre, en fait, grâce à la pensée féministe et à sa déconstruction de ce discours, que c'est un être masculin. Ça, tout d'un coup, ça fait sens de plein de choses que je vivais au quotidien. Ça fait sens de quelque chose d'aussi basique que tous les ans, à la même époque, on nous rappelle que les femmes sont payées moins que les hommes pour des jobs similaires. Mais ouais, à un moment, c'est bien de me le dire, ça. Enfin, il faudrait me l'expliquer. Et personne ne l'explique. Et là, je trouve des explications. Donc, ça vient, je crois, d'un désir profond d'équité. Et d'avoir le sentiment que cette équité n'est pas là, n'existe pas, et que nos idées, les idées qui structurent notre vie institutionnelle, etc., sont la cause. Ça, c'est pas tant qu'on n'applique pas bien les idées qui sont la fondation de notre démocratie, c'est pas ça, c'est qu'elles sont elles-mêmes problématiques et qu'il faut les remettre en cause.
Je pense que la réponse est très claire, elle est très profonde, mais finalement, je me permettrai un tout petit commentaire. Finalement, ce sont des enseignants, et c'est en enseignant que s'est révélé et s'est mis à jour ce désir d'équité. Mmh. Et on pourrait presque dire, c'est enseignant, et c'est enseignant de vous.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Marc.
Merci à vous.